Contes et légendes d'Alsace, Richard X d'Alsace. Les hommes et les lances brillent sous le soleil du printemps. Mille bannières multicolores flottent au vent pour saluer le roi Charles et sa jeune épouse, Richard X d'Alsace. Tous les guerriers francs sont assemblés dans la clairière. Sous le chêne le plus majestueux, les trônes royaux sont dressés. Les deux époux, bien que tous deux aussi nobles par leur ancêtre, ne se ressemblent pas. Autant Charles le Gros est laid, autant Richard X est belle et gracieuse. Le roi dissimule mal son embonpoint sous de magnifiques vêtements brodés d'or. Ses traits sont vulgaires, son front bas. Son regard myope semble dénué de toute expression. Charles s'avance lentement vers la reine et galamment lui tend la main droite. Puis il dit « Je donne à mon épouse Richard X d'Alsace, l'Aquitaine et Toulouse. Saluez la reine et prêtez-lui serment de fidélité. » À ces mots, les guerriers se pressent et ils vont leurs armes, s'écrient « Nos épées protégeront notre reine et chutiront les traîtres et les insolents. » Les trompettes sonnent et les cris de longue vie à Richard X s'élèvent de toutes parts. La reine debout salue et remercie. Les yeux remplis de larmes et la gorge serrée par l'émotion. Les francs ont adopté Richard X et veilleront sur son bonheur. Trois envoyés attendent le bon plaisir du roi. L'un d'eux s'avance, c'est un gascon. Il porte un haut cimier d'acier.
« Sire, je viens envoyer du duc d'Aquitaine car notre belle ville de Narbonne est assiégée par les musulmans. Et nous me vient la secourir, elle est perdue. Seigneur, envoyez-nous quelques-uns de vos vaillants capitaines et des soldats, cela il sera trop tard. »«
Rien ne presse, répond Charles. Quand Narbonne sera pris, j'enverrai l'armée pour la reprendre. » Le deuxième messager s'avance. Il vient en ambassadeur d'Austrasie pour demander du secours. En effet, Trèves est occupée par les frisons. La ville est mise à sac par l'occupant. La famine menace. Et il faut plutôt la délivrer. Le roi a un sourire énigmatique au coin des lèvres. Que Trèves combatte, nous irons l'aider d'ici quelque temps si les circonstances le permettent. Le second envoyé est encore là. Que déjà s'avance le troisième.
Grand roi, je suis le roi de Paris. On va vers vous pour vous avertir que les Normands occupent l'île de France. Paris tient encore. Je crois que c'est miracle, il se rendra si vous ne venez vous aider à chasser les barbares.
Charles, à ce discours, baisse la tête. Il dit « Je ne peux me décider si rapidement, il me faut plusieurs jours pour réfléchir. »
Richard X, assise près de son époux, a tout entendu et implore. « Notre époux, je te supplie pour la France et surtout pour notre si belle ville de Paris qui se meurt. Pars, tu le peux, pars tout de suite. Aujourd'hui, demain ou plus tard, mais pars, il le faut, car ta gloire l'exige. Et si tu manques d'argent pour payer tes soldats, puise dans mes bijoux personnels. Mais je t'en prie, pars. »
Charles Gros va céder aux prières de Richard X. D'un regard, il a vu tous ses soldats assemblés, prêts à répondre au premier appel. Mais Gunther s'avance. C'est le mauvais conseiller du roi à qui il dicte ses ordres. Et Charles écoute l'ignoble Gunther qui lui parle à l'oreille. Un grand sourire déchire sa face bouffie. Tous tremblent d'entendre la décision du roi qui vient de lui être dictée. Et il n'est pas du tout dans mes intentions de défendre Narbonne. Au contraire, je la donne de grand cœur aux Sarrasins pour qu'ils deviennent mes amis. Quant à la ville de Trèves, les frisons peuvent se rejoindre pareil, en bien leur face. Les défenseurs de Paris doivent être assez nombreux, et du reste, ils sont braves. Ils vaincront bien tout seuls. Nous avons mieux à faire ici. Il faut organiser des tournois et nous distraire au festin et divertissement. Gunther, debout près du roi, a tout écouté. Ses yeux lentement épient les mouvements des soldats mécontents. Richard X se lève, brusquement, sa colère éclate.
Charles, ta faiblesse est honteuse. N'écoute plus Gunther qui me trahit. Il ne pense qu'à augmenter sa fortune déjà considérable et mal acquise. Je ne veux pas partager avec toi la honte et le déshonneur. Je retire ma voix du conseil et je regagne sur mes jours mes Vosges natales où je m'enfermerai dans ma tour solitaire. Si un jour tu te repens de ta conduite, si tu renonces à écouter les intrigants et si tu agis en roi, tu sauras donc où me trouver.
Charles le Gros est roi, mais il n'a pas le pouvoir. Gunther seul gouverne, trahissant les intérêts de la France, fraternisant avec ses ennemis, tant Sarrasins que Frisons ou Normands. Mais le roi Charles est triste, silencieux et songeur. Richard X est loin, et peut-être avait-elle raison. Gunther, lui, au contraire, est parfaitement satisfait. Il est puissamment riche, ses châteaux et ses terres sont nombreux. Quel événement, Seigneur, répand sur votre visage cette mélancolie. Vos ennemis semblent calmés, l'argent rentre au trésor. Ce soir, la fête sera encore plus belle que les précédents. Le festin est enrichi des nombreuses pièces de gibier provenant de mes terres. Et après le repas, nous aurons le divertissement de danse et de chant. Il ne s'agit pas de cela en vérité. Ce ne sont pas ces soucis-là qui m'empêchent de vivre heureux, cher Gunther. Mais je pense à mon épouse Richard X, si belle et si jeune, qui vit retirée dans sa haute tour et ne me permet même pas de lui rendre visite. Seigneur, vous avez grand tort de vous laisser abattre pour une femme comme Richard X, qui fort, injustement, est devenue l'idole de l'armée du peuple. Si vous me le permettez, je saurais bien faire tomber cette idole. Mes chers Gunther, je ne vois rien à lui reprocher. Aucun tribunal ne voudra la condamner sans raison.
Je pense, au contraire, avoir certains moyens de la compromettre et de l'accuser. Je vous avoue maintenant une chose que je vous tenais cachée.
ne voulant pas vous affliger. Quelqu'un que je connais a vu par hasard un homme qui se dirigeait vers la tour. Sur le seuil, une mia priait, et une femme, qui ne pouvait être que la reine, attendait. Ciel, que dis-tu? La reine, mon épouse, cette insolente créature qui osa me braver et m'humilier devant tout mon conseil et mes soldats, et à qui j'avais pardonné cette humiliation, me quitte lâchement. Maintenant, avec un homme, elle mérite un châtiment exemplaire. Mais que faire? Comment la punir? Seigneur, apaisez votre colère. Elle ne mérite pas votre coup, mais faites plutôt venir Richard X. Elle défendra sa belle innocence devant le tribunal, et nous la soumettrons au jugement de Dieu. À quelque temps de là, le roi est assis, majestueux, sur son trône. Le peuple en armes est debout devant lui. À droite du trône, vêtu de noir, sinistre, se tient Gunther, instigateur de ce procès. Richard X se dirige d'un pas noble et assuré vers son époux, qui s'arrête, vêtu de blanc, lui font un long cortège. « Seigneur, la rumeur m'annonce que vous me citez en justice et que vous m'accusez. Je suis prête à vous écouter. Que me reprochez-vous ? » ?»« Impudent, dit le roi, je t'accuse d'avoir profité de ta solitude où tu voulais m'écarter pour te laisser séduire. Tu as caché, sous des aspects vertueux, tout un ensemble de vices. Moi, Seigneur, vous osez sans rougir souiller d'une médisance aussi infâme, un blason aussi noble que le mien. Quel calomniateur arrivera à prouver des faits aussi monstrueux ?» C'est alors que s'avance Gunther. Le crime est évident, c'est moi-même qui l'ai surprise. Il n'est point nécessaire d'avoir d'autres preuves. Mon seul témoignage doit suffire. Et d'ailleurs, je suis prêt à soutenir mes affirmations contre qui osera en douter. Je m'en remets, dit Charles, au jugement divin. Un murmure immense parcourt alors les rangs de la foule. Ce murmure devient bientôt tumulte et Gunther s'inquiète de ces manifestations. Des cris, des voix s'élèvent. « Gunther a menti, vive la reine! Qu'on juge Gunther, c'est un traître! La reine est innocente! On te prend au mot, Gunther !» Soudain, un homme s'élance hors des rangs et se dresse menaçant devant le vil conseiller. Il est beau et grand dans son armure. Ses yeux bleus brillent de colère. « Tu n'es qu'un vil coquin, Gunther, dit-il, je voudrais t'arracher la langue. Ramasse mon gant si toutefois tu en as le courage. » Gunther connaît le jeune audacieux. Il tremble, il sait que son épée est fidèle et que ses coups sont terribles pour l'ennemi. Mais il est orgueilleux et ramasse le gant. Le combat est aussitôt organisé. Dans l'enclos, les valeureux soldats francs se sont réunis. Au milieu, les deux adversaires se regardent avec haine. Le combat sera dur. Gunther a revêtu sa lourde cuirasse. Il est énorme et paraît écraser le jeune homme de sa haute taille. D'un coup de glaive, Gunther a brisé le homme de son adversaire. Une joie farouche passe dans ses yeux. « Je n'ai pas besoin de cette boîte de fer pour te tuer, infâme traître, dit le jeune homme en jetant ce casque loin derrière lui. » Se disant, il se précipite sur son adversaire, qui prit à la police trouve à la renverse. Gunther est maintenant à la merci du jeune chevalier. Celui-ci va le tuer d'un coup de lance, mais Richard X se précipite en criant.
« Laisse donc vivre ce reptile, il ne fera plus de mal maintenant. »
Le vainqueur abandonne alors le corps de son ennemi terrassé.
Il n'a pas pu entendre ces mots que Gunther a prononcés entre ses dents.
« Finement humilié, mais patient, je finirai bien par me venger. » Une ovation immense salue le vainqueur, qui va s'agenouiller au pied de Richard X en s'écriant. « Valeureux guerrier, acclamez votre reine, elle est pure et innocente. » Richard X est ému. Elle ne peut remercier son sauveur. « Dis-moi au moins, quel est ton nom ?»«
Je m'appelle Théobald, je descends d'une noble famille de guerriers. J'ai un château en Île-de-France, mais mon donjon s'est écroulé. Je n'ai plus de biens, et je ne possède qu'un seul serviteur et la vieille devise de mes aïeux. »«
Laisse-toi, vaillant Théobald, tu peux être fier de ta bravoure. Elle est un exemple pour tous nos braves soldats. Aucun présent ne peut acquitter ma dette envers toi. » Car tu as exposé librement ta vie pour sauver la mienne. Si tu le veux, tu seras mon chevalier. La défaite de Gunther a chassé tous ses ennemis, qui n'étaient autres que les ennemis de la France. Richard X possède l'appui de tous les fronts. C'est elle qui règne. Elle rétablit l'ordre et rappelle ceux que l'injustice, la haine de Gunther avait éloigné de la cour. Mais Gunther est toujours là, près du roi Charles. Sa haine est violente. Le roi se plaint à son conseiller de ne plus gouverner, d'être éloigné par la reine des décisions du gouvernement. De colère, un jour, il va reprocher à son conseiller d'avoir imaginé ce procès qui s'est terminé par une victoire au profit de la reine et qui a augmenté encore le prestige de la reine et l'amour de son peuple à l'encontre du sien. Gunther quitte le roi en silence. Il a de nouveaux projets de vengeance qu'il mettra à exécution. Je suis certain que Théobald est épris de la reine, qui, elle, de son côté, n'est pas insensible au charme mais au courage de son défenseur. Je veux exploiter cette idée. Il me suffit de les surprendre ensemble et nous verrons enfin ce couple insolent châtié comme il se doit. La reine a donné rendez-vous à son brave chevalier Théobald. Elle a l'intention de lui confier le commandement de toute son armée pour défendre nos belles villes de France et repousser les cruels barbares.
Théobald, tu vas réunir tous les nobles et les guerriers et tu prendras le commandement de cette armée.
Théobald est ému par tant d'honneur. Noble reine, je ne mérite pas cette faveur. Je suis votre chevalier et je dois rester près de vous pour vous défendre de Gunther, qui, je le sais, se vengera dès qu'il le pourra.
Je sais, mais je n'ai pas peur de lui. Tu dois avant tout servir ton pays. Je t'ordonne de partir et tu dois m'obéir.
À ces mots, Théobald se jette aux pieds de la reine et lui dit toute sa reconnaissance. Puis, il lui baise les mains.
Je partirai donc, puisque vous me l'ordonnez. Je repousserai les Normands, je sortirai vainqueur de la bataille et je mourrai glorieusement au combat. De toute façon, je ne serai pas indigne de l'honneur qui me fait ma noble et tant aimée reine.
D'un fourré soudain, des hommes ont bondi et Théobald se lève. Gunther a surgi à la suite des hommes. Liez-lui les mains et emmenez ce lâche séducteur. Charles le Gros a assisté, muet, à cette scène. Charles court vers son époux.
Seigneur, écoutez-moi, Théobald, mon chevalier, il est innocent, et si tu refuses de le faire libérer sur le champ, je te demande le droit de prouver son innocence par le feu. Il a déjà prouvé la mienne, et sauvé ma vie, je veux sauver la sienne.
Insensé, si tu veux le supplice de feu, je me soumets à ton bon vouloir. Devant la cathédrale de Reims, tous les guerriers sont rassemblés. Face à la basilique, le trône royal a été dressé, et non loin de là, siège le tribunal. Au milieu de la place, brûle un grand feu. On n'entend pas le moindre bruit dans les rangs des soldats. Ils sont là, debout, tristes, car ils ont grand-peine de voir leur reine soumise à un jugement de Dieu aussi terrible et d'où il leur paraît peu probable qu'elle sorte vivante. Le peuple se presse curieux derrière les soldats, prêts à clamer ou à injurier la reine. Un murmure traverse la foule. Richardise vient d'apparaître. Elle s'avance vers le tribunal, vêtue en pénitente. Une longue chemise enrouée de toile blanche, tout droite, la taille serrée par une corde grossière. Elle tient dans ses mains un grand Christ de bois. Elle marche d'un pas assuré, la tête à terre et pose ses pieds nus sur les tisons ardents du grand bûcher. Elle ne tressaille même pas. La foule semble pétrifiée. Elle avance, toujours sans crainte du brasier, pâle mais remplie de gratitude envers Dieu. Elle se dirige vers son époux. Elle a quitté le bûcher. La foule, d'un seul mouvement, lui fait une folle ovation. Un cavalier avance, c'est Théobald. Il a entendu les cris de joie et a compris. Il a pu échapper à la surveillance de ses gardes et au pied de Richard X, il se prosterne. La foule redouble ses acclamations, unissant son amour pour la reine à l'admiration pour son vaillant chevalier.
Vive Sainte Richard X, qu'elle soit notre reine, punissons Gunther, qu'il soit mis à mort sans jugement, punissons Charles le Gros, il n'est pas digne de régner.
Gunther s'est déjà enfui. Charles est seul, il va être massacré par son peuple. Sa fin, d'un seul geste, apaise les rumeurs, puis se tournant vers le roi.
« Seigneur, votre lâcheté et votre faiblesse mériteraient d'être punies, mais je ne constitue pas un tribunal. Je demande donc votre grâce. Quant à moi, je ne veux plus partager avec vous le pouvoir. Je désire me consacrer à Dieu, qui lui seul est mon roi. »
Puis se tournant vers les armées,
« Combattez noblement ainsi que vous l'avez toujours fait. Gardez-vous de vous laisser séduire par les intrigants et les lâches. Quant à toi, Théobald, je te demande de parcourir mon pays d'Alsace et de chercher un lieu tranquille où je ferai construire un couvent. C'est là que je veux me retirer. » Dans la prière et le jeûne.
Comme on pouvait s'en douter, le jeune Théobald, devant tant de vertu et tant de grâce, a senti son cœur s'enflammer pour sa reine. Et c'est tristement qu'il chemine sur son cheval, à la recherche d'un endroit favorable à la construction du couvent de Richard X. Enfin, Théobald a trouvé dans l'Alsace de Richard X, près du Val d'Andeau, le lieu où sa reine fera élever son couvent. Sa mission est terminée. Il n'a plus rien à faire dans la contrée. Le cœur déchiré, Théobald part pour oublier en Palestine. Là, dans un couvent de moines, il s'enferme et se soumet pendant un an aux règles les plus austères, se livre à la prière et à la méditation. Celle-ci fortifie son âme et l'aide à triompher des embûches et des multiples tentations de Satan, mais elles ne parviennent pas à lui faire oublier Richard X.
Un an plus tard, Théobald, revenu en Alsace, a revu Richard X. Il lui a même avoué son amour.
Richard X, avec sagesse et bonté, lui fait comprendre qu'il ne doit plus chercher à la revoir. Elle désire se consacrer uniquement à Dieu. Pour lui prouver son amour et son respect, il doit partir à la recherche de nouveaux lauriers. L'histoire de Richard X d'Alsace et de Théobald est terminée. En Alsace, on vénère encore la noble Richard X. On lui a édifié une magnifique fontaine. Les jeunes filles, qui le matin vont chercher de l'eau à ce puits, voient le soleil se lever sur le front limpide et pur de la statue de Richard X d'Alsace.
Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.